friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.
On entend partout, la littérature est morte, le livre aussi, les jeunes ne lisent plus. Et alors, chose incroyable, c'est que la littérature jeunesse ne s'est jamais aussi bien portée, et avec en plus des volumes d'exception et des écrits, ma foi, fort intéressants. Et j'ai de la chance, et vous avez de la chance, puisque aujourd'hui je reçois une autrice, Minuit, qui vient nous parler de son livre Angelica Brise contre les dragons, qui est de la littérature jeunesse. Et je reçois également Nathalie Lerest. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Qui est l'illustratrice de ce volume. Alors Nathalie, on va parler un peu plus tard des illustrations, mais d'abord je commence par Minuit. On va commencer par le début. Pourquoi Minuit ?
Alors, j'ai choisi de prendre ce nom de plume, tout d'abord parce que dans mes livres, souvent, les personnages ont un peu une double identité. Enfin, dans les histoires que j'ai écrites jusque-là, ils s'inventaient un peu une autre vie. Donc, dans le livre dont on va parler après, Angelica se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc, moi, j'ai pensé qu'en publiant un livre, ça aurait été dommage, alors que j'en avais la possibilité, de ne pas faire comme mes personnages et de rester la même que dans la vie ordinaire, quoi. Donc voilà, j'ai choisi de prendre un pseudo. Ensuite, une autre raison c'est que mon vrai nom est assez compliqué à retenir pour les personnes qui ne le connaissent pas, ou en tout cas compliqué à écrire. Et souvent, quand j'étais même à l'école ou quand je faisais partie des clubs de sport ou des choses comme ça, il a souvent été très mal orthographié. Alors que Minuit, c'est un mot qui est facile à retenir, que tout le monde connaît. Qui laisse un peu planer le doute, parce que Minuit, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça fait partie d'hier, d'aujourd'hui ou de demain ? C'est un moment un peu magique, Minuit, c'est l'heure à laquelle les loups-garous sont sortis, les chats sont sur les toits, les carrosses se transforment en citrouilles, les fantômes dansent, les vampires sortent, enfin Minuit quoi. Voilà, Minuit.
Et alors Minuit, tu viens de parler de la vie ordinaire et justement de ce que permet l'écriture d'en sortir. Avant de passer à l'écriture, qui est quelque chose qui m'intrigue énormément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la lecture ? Parce que pour moi les deux sont intimement liés, je ne sais pas si c'est le cas pour toi.
Oui, alors la lecture, je crois que je lisais avant de savoir lire, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me lisaient des histoires donc à voix haute. Ou après, on empruntait aussi beaucoup d'histoires sur des cassettes quand on était petite, sur des cassettes donc audio, des histoires enregistrées notamment par Marlène Jobert. Et donc ça m'a donné tout de suite envie de lire. Et dès que j'ai su lire, pour moi, ça a été une découverte fantastique d'apprendre à mettre les lettres les unes à côté des autres, les syllabes. Donc pour moi, c'était vraiment magique. Et après, pour l'écriture, c'est pareil. Je pense que j'ai commencé à écrire avant de savoir écrire. rien qu'en inventant des histoires dans ma tête, quoi. On n'a pas besoin de savoir réellement écrire pour inventer, je pense.
Est-ce qu'il y a une passerelle pour toi entre les deux ? Il faut être une grande lectrice pour être une autrice ?
Alors pour moi, c'est obligé parce qu'on s'inspire forcément de tout ce qu'on lit. Quand j'écris, même si je ne m'en rends pas compte, j'ai des souvenirs de tout ce que j'ai lu auparavant ou de ce que j'ai entendu aussi, donc pas forcément lu, mais des contes qu'on m'a racontés ou des choses comme ça. Et oui, je pense que pour écrire, il faut avoir lu ou il faut avoir au moins entendu des histoires pour développer son imaginaire.
Et on peut être grand lecteur ou grande lectrice sans jamais passer à l'écriture, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à avoir envie de prendre la plume et de le faire partager ?
Rien de particulier. Enfin, c'était un besoin, en fait, plus qu'une envie. Je sais pas, le besoin, quand j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai besoin de les mettre sur le papier. J'ai l'impression que ça se bouscule un petit peu. Enfin, voilà, je saurais pas expliquer exactement.
Et ça se bouscule, alors c'est intéressant parce que le livre dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Angelica Brise contre les dragons, c'est un livre qui nous emmène dans un monde imaginaire, qui n'est pas la vie ordinaire dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, comment est né ce livre et de quel besoin il émerge, alors, pour le coup ?
Alors, quand j'écris une histoire, souvent, j'ai que le titre au début. Et donc, je sais qu'il y a certains auteurs qui, quand ils commencent un livre, ils ont déjà tout leur plan dans leur tête. Et comme on nous dit à l'école, quand on fait une rédaction, ou je sais quand je faisais des commentaires ou des devoirs à l'école, on me disait il faut que tu aies ton plan avant de commencer à rédiger. Et on devait avoir grand 1, grand 2, grand 3. Et moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Souvent, quand j'écris une histoire, j'ai juste le titre. Et après, à partir de ce titre, ça se développe tout seul. Et au fur et à mesure que j'écris, souvent, je ne sais pas ce que ce sera la fin. Et ça vient comme quand j'étais petite et que je jouais au Playmobil. Ça vient petit à petit et ça se déroule tout seul. Donc voilà, Angelica, elle est née à partir du titre. Et après, une fois que j'ai eu ce titre, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Comme j'avais le titre, je savais qu'il y aurait des dragons, évidemment. Mais après, je ne savais pas exactement comment est-ce qu'ils allaient être, qui allait être gentil, qui allait être méchant. Et ils se sont un peu mis en place tout seuls. Comme des petits Lego ou des Playmobil qui s'emboîtent les uns dans les autres sans qu'on l'ait forcément voulu. Quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? De quoi ça parle ?
Oui, alors donc, l'idée du départ, c'est qu'Angelica, c'est une pauvresse, une fille du peuple qui vit chez elle donc déjà dans un monde de fantasy, donc un peu médiéval. Donc il n'y aura pas de voiture, vous ne trouverez pas d'eau courante ou d'électricité. Donc Angelica, elle vit avec sa mère qui est malade et elle travaille comme fille d'auberge, donc ce qui s'appelle une torche-peau en ancien français. Elle fait toutes les petites besognes dont personne ne veut. Elle fait la vaisselle, elle lave sous les tables, dans l'auberge où sa tante est cuisinière. Et en fait, dans ce monde-là, il y a un rapport de force entre les hommes et les dragons. Donc, les deux vivent dans le même monde, mais les dragons sont supérieurs aux hommes. Ce qui veut dire qu'en fait, ils leur soutirent des taxes. Ils maintiennent les hommes dans une sorte de sevrage où les hommes doivent leur payer soit en or, soit avec des marchandises. Certaines taxes, et en plus les dragons ont cette méchanceté un petit peu d'enlever les jeunes filles nobles pour en faire leurs prisonnières, et donc ils les gardent prisonnières dans leur caverne en l'échange de rançons, ou en tout cas pour assurer la paix entre les hommes et les dragons. Et les humains qui sont inférieurs aux dragons, ils l'étaient encore plus auparavant, parce qu'il y a plusieurs milliers d'années que ce rapport dure entre les hommes et les dragons. Et au départ, les hommes ne connaissaient pas le feu. Et en fait, il y a plusieurs siècles, une princesse qui s'appelait Promise a dérobé le feu aux dragons. Et donc ça a un petit peu... Promise a offert le feu aux hommes. Et avec le feu, la condition humaine s'est un petit peu améliorée. Mais ça n'a pas suffi pour que les hommes soient quand même l'égal des dragons. Donc Angelica, elle voudrait chercher pourquoi les dragons sont toujours supérieurs aux hommes, alors que maintenant ils détiennent tous les deux le secret du feu. Donc Angelica, elle va chercher à partir à la rencontre des dragons pour leur dérober un autre secret, un secret autre que le feu qui pourrait faire que les hommes et les dragons pourraient être égaux.
Tu l'as dit tout à l'heure, on utilise les ressorts de la littérature de la fantasy. Il y a quelque chose où il me semble que t'as pas tout à fait suivi les codes. C'est une princesse qui dérobe le feu et c'est une femme du peuple qui part à la recherche. Il est où le chevalier sans faire et sans reproche ?
Alors les chevaliers, c'est vrai que pour le moment, en tout cas, ils sont pas trop présents. Donc les chevaliers, ils sont censés venir délivrer les princesses. C'est un peu leur seul rôle, quoi, dans le monde d'Angelica. Qui est quand même un grand rôle, hein, parce que c'est eux qui doivent sauver les princesses et affronter les dragons. Mais en tout cas, dans Angelica Breeze, ce ne seront pas les chevaliers qui seront mis à l'honneur. C'est vraiment une fille ordinaire, j'aimerais dire, qui va devenir l'héroïne, enfin qui cherche à devenir l'héroïne du monde, en tout cas comme l'était auparavant son idole promise.
C'était une volonté de ta part justement de casser ces codes ?
Oui. Oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on manque on manque de nous les filles, on a besoin de s'affirmer. Donc je pense que après j'ai pas trop réfléchi plus que ça, mais bon, je pense que aussi ça aurait été plus difficile pour moi de décrire un héros masculin tout en étant une fille. Ça aurait été possible, mais je pense que ça aurait été moins... Ça aurait fait moins réaliste, peut-être, pour moi aussi.
Ah, et puis pour moi, en lectrice féminine, j'ai adoré que ce soit une chef de village et une princesse qui aille dérober le feu.
Ça fait plaisir de l'entendre.
En termes d'identification, c'est très chouette, ouais. Complètement. Tu disais tout à l'heure, comme beaucoup de littérature fantasy, c'est peut-être même sa définition, ça se déroule dans un monde moyenâgeux. Et tu as même poussé l'exercice à utiliser de l'ancien français ou du vieux français dans ce livre qu'on rencontre un peu partout. Comment ça se fait que tu aies ce rapport-là au vieux français ?
Alors en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les mots, parce que je trouve que les mots, c'est quelque chose de magique. Il y a plein de mots qui veulent dire la même chose, et après, pour dire une seule chose, on peut utiliser beaucoup d'autres mots. Enfin, j'ai toujours aimé feuilleter les dictionnaires parce que je trouve qu'il y a certains termes qu'on n'utilise pas assez alors qui sont rigolos ou fantastiques ou des choses comme ça. Et donc j'ai bien aimé toujours chercher l'étymologie des mots, c'est-à-dire d'où ils viennent, s'ils viennent du latin, du grec, du vieux norrois, etc. Et en fait, pour moi, mettre des mots d'ancien français, c'était utiliser des mots qu'on a oubliés, mais qui existaient autrefois. Et c'est un peu les remettre au goût du jour, quoi. C'est des mots que j'ai pu rencontrer soit dans mes lectures des romans médiévaux et qui m'ont plu, soit rien que j'ai trouvé dans des dictionnaires donc d'ancien français et que je trouvais amusants, parce que c'est surtout des mots amusants que j'essaie d'utiliser. Et c'est un peu pour essayer de leur redonner une seconde vie en les insérant dans ce livre.
Qu'est-ce que disent mes pères, tel bestail ne prendrait mis à pair ? Fille de grand lignage suis, non de folle pute garçonnière. Miels audrait air de vive qu'à s'offrir que telle glotte députère matochaste. Païen est, de ville estras, siam nad, tel totes besternaise. Patroméorts, gossier cuid.
Et aussi une autre raison, c'est que pour moi, si par exemple on voyage en Italie ou en Chine, enfin dans un autre pays, on entendra forcément des mots étrangers, donc des mots italiens, chinois, etc. Et donc je pense que si on voyageait dans le temps et qu'on arrivait au Moyen-Âge, on entendrait des mots d'ancien français. Donc en insérer dans le livre, c'est en quelque sorte donner une couleur locale au roman.
Et alors on rassure lecteurs et lectrices, c'est comme si vous voyagez en Chine, vous avez un petit dictionnaire à la fin sur les mots moyenâgeux justement pour pas... pour qu'on comprenne où on a atterri,
oui.
En fait. Et ça, c'est bien utile et marrant.
Au début, alors moi, j'avais mis le lexique à la fin. Mais quand je l'avais écrit, je n'avais pas souligné donc, les mots en ancien français parce que pour moi, je les avais insérés dans des endroits où ils étaient compréhensibles. Et pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller voir le lexique à la fin. Après, bien sûr, c'est bien d'avoir la curiosité de savoir exactement ce que ça veut dire. Mais au début, pour moi, ils étaient instinctifs, ces mots. Et si on entendait quelqu'un dire « Oh, trêve de pâte à fleurie !» Enfin, pour moi, on était censé comprendre que pâte à fleurie, ça voulait dire sottise. Enfin, voilà. Et l'éditeur a pensé que quand même, c'était mieux de signaler, quand il s'agissait d'anciens français, de mettre une petite astérisque. Donc voilà, vous pouvez être rassurés. Vous aurez quand même une petite astérisque pour vous indiquer à chaque fois que vous aurez un mot d'ancien français. C'est pas une coquille ou c'est pas vous qui connaissez pas le dernier vocabulaire à la mode, pardon.
Oui, puis en termes d'exercice, moi au début j'allais tous les voir pour voir ce que ça voulait dire. Et puis au bout de 10 pages, j'étais tellement dans l'histoire que j'ai complètement oublié d'aller les voir. Ça se comprenait tout seul.
Mmh.
Retour avec Minuit, l'autrice d'Angélica Brise contre les dragons, un roman d'aventure en pays moyenâgeux. Alors une autre chose, c'est que cet exercice moyenâgeux, j'ai eu l'impression de le retrouver aussi dans l'illustration, où on avait des sortes d'enluminures. Alors c'est assez surprenant parce que c'est, je trouve, rare dans la littérature où un livre est illustré. Et Nathalie Lerest, c'est là où toi tu es intervenue. Alors comment ça s'est passé, justement, ce travail d'illustratrice par rapport au texte ?
Alors j'ai d'abord lu le roman. Alors là, ça sort en trilogie, hein, mais j'ai eu la chance de lire l'entièreté du manuscrit. Enfin, du manuscrit qui n'est plus manuscrit, qui est tapuscrit maintenant, on dit. Et puis après, donc voilà, j'ai trouvé génial, j'ai trouvé super. Donc je me suis dit, oui, pour l'illustration, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on aime un texte pour pouvoir s'en emparer, pour pouvoir l'illustrer. J'ai fait comme l'autrice, Minuit, en fait, qui joue avec les mots d'ancien français. Moi, ce côté moyenâgeux, j'avais envie de l'illustrer par des lettrines. Donc j'ai compulsé aussi tout un tas de livres sur les dragons, tout un tas d'illustrations, mais aussi tout un tas de manuscrits moyenâgeux. Et puis voilà, alors j'ai une formation en calligraphie, donc c'est vrai que je suis replongée dans le livre de Kells notamment, et dans plein de manuscrits. Et j'ai repensé en fait aux Bibles, aux anciennes Bibles, aux anciens livres, au Moyen-Âge, à ces illustrations de monstres. Dans les anciens livres, il y avait des dessins, en marge parfois même, des graffitis, enfin des petits grabouillons, hein, avec des animaux ou fantastiques ou réels. Voilà, au Moyen-Âge, on acceptait volontiers les animaux fantastiques, hein, parfois on retrouve des espèces de monstres ou Donc je suis repartie dans cette idée-là et je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Kells, que j'aime beaucoup. Bon, on est celte, hein, on est très celte dans notre famille, donc le livre de Kells me parle beaucoup et je suis repartie, voilà. C'est pour ça que j'ai mis les dragons de profil comme ça, comme sur ces illustrations, et les personnages de face, avec toujours cette idée du livre de Kells derrière.
Alors, est-ce qu'on peut mettre deux astérisques, la première sur lettrine et qu'on aille voir à la fin, et la deuxième sur livre de Kells pour les auteurs qui ne maîtriseraient pas?
Alors, le livre de Kells, c'est un livre qui a été écrit à peu près à l'an 800, qui est conservé, si je ne me trompe pas, à Dublin. Voilà, on peut le voir encore. Alors, on peut y aller même tous les jours, parce qu'apparemment, tous les jours, on tourne une page du livre. Donc wow. Vous pouvez visiter le lieu où il se situe. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'adorerais. J'ai vu que des repros. Hein. Et c'est un livre magique parce qu'il date de l'an 800 et il est toujours là. Alors, livre de quel, ça veut dire livre des Celtes, je crois. Il nous reste trois livres de cette époque en Angleterre. Hein, le livre de Kells, le livre de Lindisfarne. Et puis un troisième dont j'ai mangé le nom. Et c'est un livre incroyable avec des illustrations et des enluminures incroyables. C'est un vrai trésor qui a traversé les siècles, avec beaucoup de motifs celtiques, beaucoup de motifs qui étaient au départ païens, hein, des triskels, des entrelacs, énormément d'entrelacs, et puis des petites scènes de la vie quotidienne. Dans une lettrine, il y a un chat et, qui court après une petite souris, et on pense que le moine qui a enluminé ce livre s'est servi d'une petite scène de la vie quotidienne. Donc il y a en même temps des animaux fantastiques, des espèces de monstres avec des pattes, et tout est mélangé, la queue, les pattes, la tête, et puis des animaux comme un chat, une souris qui font partie du quotidien. Donc ça cette dualité m'a plu aussi, qu'on retrouve dans le livre d'Angélica, avec des choses un peu contemporaines et puis des choses un peu moyenâgeuses. Et puis la lettrine, eh bien, l'enluminure contient plusieurs choses, donc des miniatures, des représentations de la vie quotidienne qu'on appelle miniatures. Alors miniatures non pas parce que c'est petit, mais parce que c'est dessiné avec un pigment rouge, le minium, donc qui a donné le mot miniature. On retrouve aussi des frises, hein, de fleurs, etc., de végétaux. Et puis on retrouve des lettrines, donc qui sont des lettres décorées.
Et c'est ça qu'on va retrouver dans le livre d'Angélica.
Voilà.
Alors comment s'est passé le travail entre vous deux, autrice et illustratrice? L'autrice, Minuit, t'a donné le livre et a dit « Tiens ». Ou alors, il y a eu des échanges entre vous deux pour savoir, est-ce que toi, Minuit, tu avais déjà envisagé des choses? Comment ça s'est passé?
Alors, au départ, je lui ai juste donné à Nathalie et je lui ai dit, tiens, je lui ai dit, lis-le et dis-moi si toi, tu veux faire quelque chose. Parce que moi, j'étais vraiment intéressée pour qu'elle fasse donc, des illustrations et d'autant plus des lettrines. Et donc après, par contre, je lui ai laissé vraiment... carte blanche pour l'illustrer. Je n'ai pas dit à tel chapitre, je veux telle illustration. Donc ça, par contre, je crois que je t'ai laissé choisir ce que tu voulais comme illustration.
Ouais. Là où c'était difficile, c'est de ne pas spoiler. Moi, j'ai horreur des livres où les têtes de chapitre nous disent ce qui va se passer dans le chapitre. Je ne supporte pas ça parce que... Mais il y avait quand même la volonté que l'illustration corresponde à ce qu'allait se passer quand même dans le chapitre, quelque part. Voilà, j'allais pas... Donc, y avait toujours cette ligne de crête entre le ne pas spoiler ce qui va arriver, parce que c'est quand même un peu dommage dans le titre de retrouver tout ce qu'on va lire. Ça sert à rien, c'est bête. Mais en même temps, d'introduire ce qui va se passer en le suggérant sans le dévoiler. Donc c'était un peu cette ligne de crête-là sur laquelle je marchais à chaque fois. Et sur quoi on pouvait échanger aussi.
C'est un exercice que tu avais déjà fait ?
Non. Non, jamais.
Ça
et j'ai adoré.
Ouais.
Ah bah oui, j'ai adoré, c'était génial. Oui, parce que c'était un défi, donc ça c'était chouette, quoi. Puis d'inventer à partir d'une invention et de en même temps s'accaparer et relâcher, en même temps s'imprégner du texte, s'imprégner du livre de Kells, qui a plus de 1200 ans, s'imprégner du texte de Minuit, qui avait 3 mois, et en même temps ben, les laisser un petit peu de côté pour travailler, et en même temps les reprendre et les relaisser, etc., etc. Alors, j'ai demandé à Minuit quand même une liste des personnages et des différents dragons avec leurs caractéristiques physiques et leurs attributs quelque part pour pouvoir avoir des symboliques aussi dedans.
Le dragon vipère.
Vitesse 8, armure 16.
Le hideux Bragator.
Furtif plus 11 par 2.
Le cauchemar monstrueux.
15 de puissance de feu.
Le terreur terrible.
Attaque 8, venin 12.
Et... le Gronk.
Mâchoire force 8.
Wow, attends, et tu nous files un cours avant, non?
Ça n'a pas l'air, mais il y a plein de petits détails, voilà, de symboliques derrière, des petites choses. Rien n'est fait au hasard, en fait. Pourquoi il y a ce petit truc, ce petit rond, voilà. Donc ça, c'est des petites suggestions, peut-être des images un peu subliminales, hein, mais c'était un peu ça.
Pour moi, c'était vraiment important aussi qu'il soit illustré, parce que d'abord, je trouve que c'est dommage... dans les romans français qu'il n'y a pas assez d'illustrations. Quand on voit par exemple là, des romans qui sont publiés dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, où les romans sont souvent illustrés. Et, alors qu'en France, même un roman jeunesse, une fois qu'on a passé le cap des 8-9 ans, les romans sont plus illustrés. Alors que pour moi, l'illustration, ça fait quand même partie... du livre, quand, comme disait Nathalie, les romans, les livres médiévaux étaient tous enluminés. Donc pour moi, un dessin, ça fait partie d'un livre. C'est bien d'avoir une illustration à côté. Et j'étais d'autant plus... pour moi, Angelica Brise avait besoin d'être illustrée. Et j'ai vraiment... ça faisait partie de mon point de recherche pour rechercher un éditeur... Je sais qu'il y a certains éditeurs qui ne veulent pas des livres illustrés. Et pour moi, c'était vraiment... les lettrines font partie d'Angelica et ce n'était pas possible qu'ils soient publiés sans. Pour moi, l'histoire perd tout son sens si on enlève les lettrines qui le décorent.
Alors justement, cette histoire d'éditeur, parce que l'écrire un livre, l'illustrer, ça reste des choses... assez intime au final, et après le passage à l'édition du livre et à la recherche d'édition, là c'est l'étape supérieure. Comment ça se passe, l'édition d'un livre, une fois qu'il a été écrit?
Alors une fois qu'il a été écrit, il faut être très patient parce que je m'entends dire que écrire ça va vite, illustrer Bon, ça, je sais pas, je veux pas m'avancer. Mais en tout cas, écrire, je pense que ça va assez vite. Après, chercher un éditeur, c'est beaucoup plus long. Il faut contacter beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent. Après, ils mettent souvent longtemps à lire le manuscrit. Donc, en fait, il faut être très patient. Quand on va avoir une réponse, souvent, on est content. On a écrit un livre, on a envie qu'il soit publié, qu'il soit lu, etc. Et en fait, ça prend souvent plusieurs années avant qu'il paraisse. Donc là, on a eu la chance que le manuscrit soit accepté par une maison d'édition qui s'appelle Les Lutins de Kélash. Donc une équipe qui est vraiment formidable, j'aimerais dire, parce qu'ils l'ont lu très rapidement, ils étaient vraiment motivés pour le publier. Après, une fois qu'ils ont donc accepté de le prendre, on a discuté vraiment sur tous les points de la publication. Donc Angelica Brise faisait au départ un seul livre qu'on a décidé de partager en trois pour qu'il soit plus accessible aux lecteurs plus jeunes. Donc ça ferait moins peur qu'un gros pavé à lire si on le partageait en trois exemplaires, en trois tomes, pardon. Donc voilà, on a déjà discuté de ça, on a choisi où est-ce qu'on allait couper les trois romans, etc. On a fait un gros travail avec la directrice de collection, qui était aussi donc la correctrice. Il s'appelle Bérangère Bouffaut. Donc ça, en fait, on l'a lu toutes les deux ensemble pour corriger tout d'abord les fautes qui pourraient avoir trait au style, s'il y avait des... Bah, par exemple des répétitions ou pour ôter des virgules. Je sais que Bérangère m'a demandé d'enlever beaucoup de virgules qui lui semblaient en trop. Mais après, elle m'a toujours laissé libre de choisir, moi, d'avoir le dernier mot, s'il y avait quelque chose qui me plaisait ou pas, de l'ôter ou de le laisser. Elle a vraiment été attentive à toutes mes lubies, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de lubies, mais... Voilà, donc il y a ces petites discussions-là, et la discussion à propos de l'ancien français aussi, que moi au début j'avais pas choisi de souligner. Donc il a fallu choisir de quelle manière on le notait dans le livre. Est-ce qu'on mettait une astérisque? Est-ce qu'on mettait de l'italique? Ou est-ce qu'on mettait une note de bas de page? Pour moi, ça aurait trop alourdi le texte de mettre des notes de bas de page à chaque fois qu'il y avait un mot d'ancien français. Enfin voilà, des petites choses comme ça qu'on a passées à la correction. Et après, il y a eu plusieurs relectures pour l'orthographe, pour éviter qu'il y ait des coquilles, etc. Et après, vraiment, la mise en page pour la disposition finale des illustrations, la police utilisée, l'interligne, etc. Avec Les Lutins de Kélash, ça s'est fait vraiment très rapidement. Parce que, pour tout te dire, on a signé notre contrat cet été. Et donc, pour qu'il soit déjà publié, le livre, ils étaient vraiment très efficaces, parce que souvent, ça prend, ces étapes-là peuvent prendre plusieurs mois et même voire plusieurs années, en principe, pour que ça se conclue. Et là, les éditeurs ont été de tous les côtés, ils ont été très efficaces, motivés et, et disponibles. Et ils m'ont vraiment passé toutes mes lubies. Donc.
Et très enthousiastes.
Voilà, très enthousiastes. Ouais. Une super équipe.
Et toi, Nathalie, en tant qu'illustratrice, c'est pareil, tu as eu des rapports avec la maison d'édition, ou ça se faisait par le biais de Minuit?
Alors, sur les illustrations à l'intérieur du livre, on a eu peu d'échanges. Voilà. Alors, on avait proposé des illustrations en même temps que le manuscrit, et puis après, je les ai retravaillées quand même. Donc, je leur ai... Alors, c'était pratiquement les mêmes, mais il y avait des petits détails, là, je les ai renettoyés, il y a des petits détails que j'ai peaufinés. Mais ils avaient accepté d'emblée, donc on n'a pas trop touché les illustrations. J'ai eu plus d'échanges pour la couverture. Je crois que la couverture, on l'a proposée après l'acceptation du manuscrit.
Au début, il n'y avait pas de couverture, parce que la plupart des maisons d'édition choisissent leur propre couverture. Parce que c'est un élément de la promotion du livre et ils veulent qu'en fait le livre soit vendu. Donc en principe, l'auteur n'a pas son mot à dire sur la couverture. Enfin, souvent, l'auteur n'a pas son mot à dire sur la couverture ni sur le titre. Et là, on a eu la chance de pouvoir choisir à la fois la couverture, le titre et même la disposition intérieure. Parce qu'en principe, l'auteur n'a vraiment pas son mot à dire pareil sur la disposition intérieure. dans une grosse maison d'édition, j'aurais pas pu choisir la police, par exemple. Alors que là, on a vraiment été en discussion pour tout de A à Z, quoi. On a pu tout discuter ensemble.
Est-ce que c'est une partie de la production de livres qui t'a plu ?
Oui. Oui, parce qu'on m'avait toujours dit, alors toi, tu donnes ton texte et après, l'éditeur choisit... Enfin, il va garder ton texte à la lettre, mais tu pourras pas... Bah, dire comment sera un peu le résultat fini, quoi. C'est pas toi qui vas choisir. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa de participer tout du long à la mise en page, pas pour que le résultat soit un peu comme on le voulait, quoi.
Le texte, alors, on peut le dire, mais le texte, à partir du moment où on signe un contrat avec une maison d'édition, le texte n'appartient plus à l'auteur. Le texte appartient à la maison d'édition pour un temps donné. Donc voilà, après l'éditeur est propriétaire du texte, donc c'est vrai qu'après, alors il y a des échanges avec les auteurs sur leur travail de relecture et de correction, etc. Mais c'est vrai que le texte n'appartient plus, donc l'auteur a plus son mot à dire ou sur la typo ou sur le choix de la manière dont il va être imprimé. Et là, il y a eu un vrai dialogue sur tout. Sur toutes les virgules, sur les points, sur la mise en page, sur la couleur du papier, sur il y a tout ce travail-là.
Ce qui fait que vous n'avez pas été dépossédé de l'œuvre, en fait.
Et non. Et ça, c'est intéressant.
L'éditeur t'a donc laissé libre imagination et liberté sur cette couverture. Alors déjà, est-ce que tu peux nous la décrire ? À quoi est-ce qu'elle ressemble ?
Elle est rouge. Rouge parce que le feu. Rouge parce que dragon, voilà, et avec une grosse aile de dragon en filigrane derrière, qu'on retrouve un peu partout dans le livre, cette aile de dragon, et puis une écriture, voilà, le titre Angelica Brice contre les dragons, avec des petites taches de couleur, et puis un peu de blanc pour les mots autres, la maison d'édition, le nom de l'autrice, et puis le tome 1, Maître Cram.
Et alors, Angelica Brice contre les dragons, on s'attend presque à voir une fillette avec une épée et puis un dragon qui est en train de lui cracher des flammes dessus. Et c'est pas le choix, c'est beaucoup plus sobre.
Oui, oui, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des couvertures anglo-saxonnes, jeunesse aussi. Quand on va à Londres, il y a une librairie à Piccadilly qui est extraordinaire. La librairie, on a l'impression d'être à Poudlard, hein, avec des escaliers en bois qui montent partout, etc., avec un rayon jeunesse incroyable. Et les couvertures, je trouve, sont beaucoup plus sobres. Est-ce qu'on a besoin de mettre un dragon qui crache des flammes avec une épée et une jeune fille qui court échevelée et en mini-jupe, souvent, sur une couverture, alors que c'est marqué Angelica Brice contre les dragons. On a déjà tout dans le titre. Donc cette sobriété, je trouve, est plus intéressante de suggérer aussi toujours l'image. On laisse la porte ouverte à l'imaginaire chez le lecteur et on ne lui impose pas une Angelica débridée. Donc le dragon, qu'est-ce que c'est ? C'est du feu. C'est un trésor, enfin dans l'imaginaire, hein, c'est un trésor, c'est du feu, c'est une aile, parce qu'il vole, c'est un peu de magie. Donc je voulais l'introduire de manière beaucoup plus subtile, par des petites touches de couleurs, et avec cette aile de dragon un peu récurrente qui symbolise finalement, est-ce qu'on a besoin de dessiner un dragon pour avoir l'imaginaire d'un dragon ? Est-ce qu'une aile de dragon ou une petite langue de feu, ça suffit pas à suggérer un dragon ? Donc voilà le parti pris, et puis le parti pris sur les lettrines, parce que voilà, on a des lettrines à l'intérieur, donc j'ai dessiné les titres en dessinant les lettres une par une et en les ajustant et en les calant les unes avec les autres, toujours dans cette idée un peu de médiéval. Donc je suis repartie aussi d'une écriture médiévale que j'ai modifiée pour que ça colle avec les illustrations intérieures aussi.
Et Minuit, toi, t'as pris part justement à cet exercice de couverture. Comment ça s'est fait ? Il y a eu un échange entre toutes les deux, ou t'as fait confiance à Nathalie sur...
Non, pour la couverture, je lui ai fait entièrement confiance. Et je trouve qu'elle représente tout à fait ce qu'on trouve à l'intérieur du livre, parce qu'avec une écriture à la fois médiévale et fantastique dans les lettres, et en même temps, comme on voit que l'aile du dragon... Pour moi, c'est tout à fait ce qu'Angelica rencontre quand elle arrive chez les dragons, parce qu'ils sont tellement grands, ces dragons, que tout lui semble démesuré. Et c'est vrai que là, le dragon ne rentrait pas en entier sur la couverture. Il y avait juste son aile qui rentrait. Mais je n'ai pas, pas du tout intervenu pour la couverture.
En tant qu'autrice, t'aurais envie de te frotter à autre chose que la littérature jeunesse, ou c'est quelque chose vraiment que t'affectionnes ?
Rien que déjà en tant que lectrice, j'apprécie particulièrement la littérature jeunesse. Après, j'ai toujours un peu du mal avec les catégories. Mmh. Et pour moi, la littérature jeunesse, c'est pas forcément une bonne catégorie. Parce que souvent, les livres écrits pour les enfants peuvent être appréciés par les adultes aussi. Après, bon, dans l'autre sens, parfois, ça marche un peu moins bien. Mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai jamais trop aimé qu'on donne des âges à partir de tel âge et tout ça. Je sais que, même quand j'étais enfant, souvent, ça m'intéressait pas trop de regarder à partir de quel âge c'était. Et aujourd'hui encore, je lis beaucoup de livres jeunesse. Donc après, j'aurais pas forcément envie d'écrire des livres spécifiques pour spécifiquement destinés aux adultes. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu d'inspiration pour écrire quelque chose de réservé à un public âgé. mais après, écrire pour la jeunesse, je pense que ça permet d'écrire pour tout le monde, en fait. Parce que par exemple, Angie Cabriz, à mon avis, peut être apprécié aussi par des adultes parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, des allusions, des références qui ne seront pas forcément comprises par les plus jeunes, mais après qui peuvent être saisies par un lectorat adulte. Ou...
C'est très... En France, on a beaucoup de mal avec la littérature jeunesse, alors qu'en fait, c'est très, très, très riche. Il y a des auteurs excellents français en littérature jeunesse. Et on a ce clivage littérature sérieuse pour adultes et littérature jeunesse, qui semble un petit peu plus bricoleuse, en fait. Hein. Alors qu'en fait, il y a une énorme qualité, il y a des auteurs qui sont extraordinaires. C'est dommage, c'est dommage. Moi, j'ai 50 ans, j'ai adoré Angelica. Et j'ai peut-être pas aimé pour la même raison qu'un enfant de 8 ou 9 ans va aimer. Et on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, on est différent, donc on va peut-être pas s'y retrouver de la même manière. Mais justement, dans les romans jeunesse actuels, il y a une richesse qui fait qu'on chacun y retrouve quelque chose. C'est dommage. J'ai pas l'impression que dans les pays anglo-saxons, ça soit comme ça. Voilà, Winnie l'ourson, c'est quelque chose d'incroyable. Et en France, on considérait peut-être Winnie l'ourson pour les bébés, en fait. Hein, alors qu'en fait, c'est un livre incroyable avec des illustrations incroyables. Voilà, c'est dommage. C'est un regret. Il va falloir qu'on travaille plus notre littérature jeunesse, là, avec les auteurs qui sont super. Il faut vraiment aller à la rencontre de la littérature jeunesse.
Et alors, même si tu n'aimes pas les catégories, il pourrait presque être dans la catégorie cuisine. Parce que moi, j'ai eu faim en lisant tout le livre. Il y a des recettes dans tous les sens et il y a même la chance d'avoir une recette à la fin. Alors ça, c'était un clin d'œil que tu avais envie de faire ?
Alors, disons que c'est plus personnel. Moi-même, j'adore faire la cuisine et la pâtisserie. Donc, c'est vrai que comme on met un peu de soi quand même dans tout ce qu'on écrit, je pense. Pour moi, c'était normal de faire une héroïne qui faisait de la cuisine et des dragons assez gourmands, quoi.
Et cette recette qu'on trouve à la fin ?
Alors, cette recette qu'on trouve à la fin, comment dire, testez-la. Les écailles de dragon, des biscuits au chocolat et au piment. Donc, pour les dragons et aussi pour ceux qui n'ont pas peur de manger un peu pimenté.
D'un point de vue plus, parce que quand même on a des auditeurs qui vont se dire, tiens, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Comment on fait pour se le procurer ?
Alors donc, comme on l'a déjà expliqué, il a été publié par les éditions des Lutins de Kellach. Donc en fait, pour le trouver, vous pouvez aller directement sur leur site, où ils ont une boutique en ligne. Et sinon, il est distribué dans toutes les librairies de France. Par contre, comme c'est une petite maison d'édition, vous ne le trouverez pas en vitrine ou dans les rayonnages. Il faudra le demander à votre libraire qui le commandera, lui, sur Internet. Mais après, vous pouvez le commander dans toutes les librairies.
Et moi, je suis arrivée à la fin de ce tome 1 et je me suis dit, oh, non, quand est-ce qu'il sort le 2 et le 3
Normalement, c'est prévu pour le printemps 2021, la sortie du deuxième tome. Et le troisième devrait être dans la foulée, dans l'année 2021 aussi. Comme les trois tomes sont déjà écrits, ça va aller assez rapidement. Il y aura juste le temps donc, de relecture avec Bérangère Bouffaud, là, directrice de collection.
On attend avec énormément d'impatience la sortie de ce prochain tome. Et merci à beaucoup à toutes les deux, Nathalie Le Reste et Minuit, pour ce livre, et puis pour votre venue.
Bah, merci de nous avoir accueillis.
Merci,
merci Marion.
Merci à
Radio Alto.
Et pour nos auditeurs Beaujus, le volume 1 d'Angélica Brise contre les dragons est en vente à Radio Alto.
Friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.